Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Nous regardons vivre des célébrités, des people, les admirons, les envions même. Stars de cinéma, animateurs de télévision, têtes couronnées, mannequins, sportifs. Des magazines nous rendent compte de leurs faits et gestes, nous savons où ils vivent, avec qui ils vivent, qui ils aiment, qui ils détestent. Tous, ils constituent une caste olympienne, un panthéon médiatique, un monde à part. Tous, ils finissent par être connus pour leur notoriété même. Autrefois, le talent donnait accès à la reconnaissance, y compris médiatique. Aujourd'hui, à l'heure du médiatique, où, nous dit McLuhan, le vrai message, c'est le médium lui-même, la reconnaissance est de plus en plus un but en soi, sans raison, sans cause. Cette grande famille du visible, selon l'expression de Serge Danet, n'est guère analysée. Nous vivons sous un nouveau régime de visibilité des gens en vue, sans examen particulier, sans analyse circonstanciée. Or, il y a, nous semble-t-il, une nouvelle manière d'envisager la célébrité et la célébrité en tant que telle. Il y a un capital symbolique, des valeurs, un capital social, un désir d'imitation, un modèle d'identification. Bref, qu'en dire, qu'en penser, comment comprendre tout cela ? Nathalie Hennick, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au CNRS, spécialiste de l'art et du statut du créateur, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont, en particulier et parmi tant d'autres, en 1991, La gloire de Van Gogh, en 2005, L'élite artistique chez Gallimard, en 2009, Le bêtisier du sociologue, et vous venez de faire paraître un beau et grand livre qui s'appelle donc De la visibilité en 2011, et il me semble que c'est la première fois où un sociologue fait une somme de 600 pages sur ce phénomène de la visibilité, de la célébrité, de la notoriété médiatique, et vous traitez effectivement ce fait social total, au sens de Marcel Mauss, sous tous les angles, historiques, sociologiques, économiques, juridiques, psychologiques. Et j'ajoute, avec un peu de regret et un peu d'admiration aussi, que vous vous gardez de tout jugement moral. L'analyse est exhaustive, froide, clinique, avec beaucoup d'analyses rapportées, beaucoup de classifications et beaucoup d'exemples. Et je voudrais donc, merci d'avoir rejoint les studios de Canal Académie, je voudrais avec vous essayer de mieux comprendre ce nouveau régime de visibilité, le comment et le pourquoi de ce phénomène. Et je dois vous dire que la lecture de votre livre m'a à la fois rempli d'admiration par la prouesse de synthèse et d'analyse qui est la vôtre, et à la fois effaré par ce que ce régime suppose quant à notre société, et avec donc beaucoup de questions, ce qui me permettra peut-être, sans doute, de vous faire sortir un tout petit peu de la neutralité axiologique que vous maintenez jusqu'au bout de votre livre. Alors, première question, pourquoi une telle enquête, vous qui étiez plutôt sur les artistes, l'art, des choses plus nobles, entre guillemets, et pourquoi un tel sujet a-t-il été jusqu'à présent à ce point évité par les sociologues? Est-ce que la célébrité est quelque chose qui est trop vulgaire pour eux? Est-ce que c'est quelque chose qui échappe à leur champ d'analyse? Voilà, donc pourquoi êtes-vous parvenu à effectivement faire cette synthèse sur la visibilité?
Merci de vos questions et de votre intérêt pour ce livre auquel j'ai consacré 25 ans. Donc la question de pourquoi faire ce livre remonte pour moi au milieu des années 80. Et en fait, il s'agit vraiment d'une intuition, comme souvent d'ailleurs le point de départ d'un livre. Ça n'était pas une théorie préalable que j'aurais voulu appliquer. Bon, c'était vraiment tout d'un coup comme une petite étincelle qui m'a permis de réaliser à quel point le statut de célébrité était aujourd'hui fondamental et à quel point il prenait d'une certaine façon le relais de quelque chose qui a pratiquement disparu dans notre société, qui est l'aristocratie, ou en tout cas la bonne société telle que, par exemple, la décrivait Proust du temps des salons mondains. Il n'y a plus de salons mondains, en revanche, il y a des studios de télévision où se retrouvent des personnalités qui ont en commun ce que j'appelle un capital de visibilité, qui sont là pour ça et qui, par ailleurs, se fréquentent entre elles, ont des enfants qui eux-mêmes deviennent des célébrités parce qu'ils sont des enfants de célébrités, donc c'est un capital qui se transmet. Bref, on a affaire à une véritable catégorie sociale dont le fondement est l'accès aux moyens médiatiques de diffusion de l'image de soi-même. Et ça, c'est un phénomène absolument nouveau. Donc j'ai eu cette intuition comme ça au milieu des années 80 et je me suis dit, mais là, finalement, ça n'a jamais été étudié. C'est quelque chose de fondamental et un petit peu comme la lettre volée d'Edgar Poe que l'on ne voit pas parce qu'elle est mise en évidence, c'est sous nos yeux, et on peut le dire avec un mot comme la visibilité c'est ce qu'il y a de plus visible aujourd'hui, et en même temps, le phénomène est rendu d'une certaine façon invisible, d'abord par sa familiarité, parce qu'il est tellement là qu'on ne se rend plus compte à quel point il a complètement renouvelé notre société, et en même temps, c'est pas seulement sa familiarité qui le rend difficile à appréhender, c'est aussi, comme vous l'avez dit, sa vulgarité, parce que la question de la célébrité, en régime médiatique, pour reprendre mon sous-titre, relève essentiellement de ce qu'on appelle la culture populaire. Or, la culture populaire est bien évidemment très mal vue dans les milieux lettrés, les milieux savants, et donc n'est appréhendée que sur le mode de la critique, de la dénonciation, du pamphlet, mais pas tellement sur le mode de l'analyse. Alors, cela dit, il faut préciser quand même que, en préparant ce livre, j'ai découvert que depuis les années 80, il y a aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en tout cas dans les pays anglo-saxons, une ligne de travaux qui s'est développée, qu'on appelle la celebrity culture, hein, sur la culture de la célébrité, extrêmement prolifique, où il y a toutes sortes d'historiens du cinéma, d'analystes des médias, bon, qui font des tas de livres et des tas d'articles, que j'ai beaucoup utilisés, bien sûr, pour écrire ce livre. Et donc, il y a une sorte de décalage impressionnant entre ce qui se passe outre-Atlantique et ce qui se passe en France. Je pense en grande partie à cause de la prégnance en France, dans les milieux cultivés, d'une hiérarchie de la culture légitime, comme dirait Bourdieu, tellement pesante qu'il est très difficile de travailler sur des sujets aussi vulgaires que les fan clubs, que les studios de télévision, etc. Alors, heureusement, on a des collègues en France qui ont commencé à travailler là-dessus depuis une petite quinzaine d'années, mais c'est tout, et ça n'est pas très développé. Voilà. Mais moi, j'ai voulu vraiment traiter ce sujet sous toutes ses formes.
Alors, pour essayer de faire un peu une histoire, enfin, pour essayer de voir comment est-ce qu'on en est arrivé là, vous distinguez, vous, deux régimes de visibilité. Donc, la visibilité comme valeur ajoutée, c'est-à-dire que l'acteur qui est acteur par ailleurs devient connu et reconnu, donc les deux à la fois. Et puis, un deuxième régime qui est celui de la visibilité comme valeur en soi. Donc, la visibilité que vous appelez endogène, c'est-à-dire le mannequin, la starlette peut-être, le présentateur de télévision. Bon. Alors, pour le dire simplement, comment est-ce que on est passé d'un régime de visibilité, donc celui qui est vu, admiré, reconnu, d'un régime de visibilité donc qui s'ajoute, comme Edith Piaf était visible, mais parce que chanteuse, et même connue dans ses aspects les plus personnels de sa vie, comment est-ce qu'on est passé de ce régime-là, qui est un régime peut-être qu'on pourrait considérer comme aristocratique, c'est-à-dire celui qui a du talent et qui est reconnu comme tel, à un régime où effectivement, celui qui passe à la télévision devient connu parce qu'il passe à la télévision, même s'il passe à la télévision pour rien d'autre que de passer à la télévision.
Alors, il faut d'abord avoir en tête que ce ne sont pas forcément des catégories distinctes. Hein. D'un côté, ceux qui ont la visibilité comme valeur ajoutée à une propriété, une excellence préalable, et de l'autre côté, ceux dont la visibilité naît de l'exposition aux moyens médiatiques, de la mise en visibilité, c'est plutôt des tendances qui se mélangent plus ou moins. Donc, à un pôle, on a ceux où il y a évidemment un statut préalable à la visibilité, et c'est typiquement les membres des familles royales qui deviennent visibles, non pas d'ailleurs par le talent, mais simplement par un statut collectif, qui est celui de la famille, ça c'est très important. Et puis, à l'autre extrémité, on a par exemple le héros de faits divers, qui par accident devient pour quelque temps hyper visible, mais dont probablement la visibilité retombera très vite. Et donc c'est entre ces deux pôles que se déplacent différentes catégories qui ont en commun donc ce capital de visibilité, mais en même temps, ce qu'elles ont en commun ne doit pas dissimuler qu'il y a d'énormes différences entre ces catégories de gens visibles. Alors, la catégorie qui, à mon sens, est vraiment au centre de tout ça, c'est celle des acteurs et des acteurs de cinéma, parce que, d'une part, ils ont ce mixte de talents préexistants supposés, c'est pas toujours le cas, mais enfin, on peut supposer qu'ils deviennent acteurs parce qu'ils sont talentueux, et aussi de visibilité due au fait qu'ils sont tout simplement exposés aux caméras, donc c'est le mixte de valeurs ajoutées et de valeurs endogènes. Ils ont aussi, parmi les propriétés qui les prédisposent à devenir visibles, des choses un peu plus impalpables comme le charisme ou la présence, et puis la beauté qui est très importante. dont on parle peu parce qu'elle nous paraît évidente, mais il n'y a pas de grande star de cinéma qui ne soit pas d'une grande beauté. Hein, c'est vraiment la valeur sous-jacente à la visibilité, mais extrêmement présente. Et puis, les acteurs de cinéma ont aussi une autre propriété qui est que ce sont à la fois des personnalités au sens où ce sont des célébrités, ce sont des personnes privées comme tout un chacun, et la visibilité implique une curiosité du public pour justement l'intimité de la personne, mais ce sont aussi des personnages de fiction puisqu'ils incarnent des personnages qui vont rajouter une troisième couche à l'admiration, si on peut dire. Donc il y a une grande importance de l'acteur de cinéma dans la modernité, et notamment au XXe siècle, comme sorte d'incarnation par excellence de la célébrité. Alors pourquoi est-ce qu'on a glissé de plus en plus vers ce que j'ai appelé la valeur endogène, donc la visibilité qui naît d'elle-même, hein? C'est tout simplement parce que il y a eu un développement de moyens techniques pour cela, et notamment la télévision, qui a été un formidable instrument de démocratisation de l'accès à la visibilité, mais en même temps une démocratisation qui s'accompagne d'une forme de familiarisation, de vulgarisation et de d'éphémérisation, si on peut dire, c'est-à-dire que c'est une visibilité de moins en moins durable. Et notamment dans la télévision, les émissions de télé-réalité, qui sont apparues à peu près dans les années 2000, ont été un extraordinaire phénomène d'emballement de cette visibilité endogène, puisque des gens qui n'ont pratiquement rien pour eux, si ce n'est en général d'être plutôt présentés bien et d'avoir accepté d'exposer leur intimité aux caméras, vont se retrouver en très peu de temps immensément célèbres pour, encore une fois, peu de qualité personnelle. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un phénomène très nouveau. Puis s'ajoute à cela Internet, puisque maintenant, n'importe qui peut poster son image sur Internet, notamment via les réseaux sociaux. Et évidemment, cela aussi ajoute une possibilité de se rendre célèbre, en tout cas visible, pas forcément célèbre, mais visible, simplement parce qu'on s'expose à une caméra, qu'on est capable de diffuser son image.
Alors, il y a les moyens techniques qui est une chose. Vous montrez bien dans votre livre que, par exemple, les mannequins, qui, jusqu'à un certain moment, aux années 70, n'existaient pas, c'est-à-dire faisaient ce qu'elles avaient à faire, mais n'avaient pas de nom, n'avaient pas de vie privée, n'avaient pas... Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui, progressivement, sont intervenus dans le champ de la visibilité. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une extension. Et deuxième chose, comment, pour poser ma question autrement, comment est-ce qu'on imagine que la notoriété, par exemple, de Paris Hilton aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'elle soit connue aujourd'hui, surtout à cause de galipettes qu'elle a pu faire sur des films vidéo qui ont été diffusés à quelques dizaines de milliers, millions d'exemplaires, qu'elle est connue aujourd'hui alors qu'elle ne l'aurait pas été, quand bien même les moyens techniques étaient là ou plus ou moins là, il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, enfin vous voyez, quelque chose comme ça.
Alors, sur les mannequins, c'est en effet une des choses que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est que, on le sait mais on l'oublie, c'est que jusqu'aux années 80, les mannequins étaient visibles mais pas célèbres, au sens où leur image n'était pas associée à leur nom propre. Et donc, elles n'avaient pas d'identité d'une certaine façon, c'était de pures images. Et puis au début des années 80, les journaux féminins, les magazines spécialisés commencent à donner le nom des mannequins. J'ai vu monter ce phénomène avec beaucoup d'intérêt parce que justement j'avais en tête d'écrire ce livre et donc j'ai vu se former sous mes yeux ce phénomène d'accès des mannequins à un capital de visibilité et non plus seulement à une simple visibilité sans leur nom. Et en même temps que se construit ce capital de visibilité, eh bien, se produit ce qui s'est produit pour toutes les catégories de gens visibles, c'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser à leur vie privée, on a des reportages sur leur vie, on les interroge, elles ont des interviews, on s'intéresse à leur mari, à leurs enfants, etc. Bon. Et on aboutit à ce phénomène d'extraordinaire starification des mannequins qui est le cas aujourd'hui. Je crois tout simplement parce que dès lors qu'il y a une possibilité d'étendre les objets d'admiration liés à la visibilité, eh bien, on attrape tout ce qui passe. Et on attrape notamment des personnes comme ce qu'on appelle les It Girls, donc Paris Hilton par exemple, qui n'ont pas d'autre crédit à devenir visibles que le fait qu'elles sont plutôt mignonnes, bien roulées, qu'elles sont très bien nées, donc elles ont les moyens de se payer ce qu'elles veulent, et que, par ailleurs, elles exploitent très bien Internet et les possibilités de diffuser leur image à très grande échelle, la possibilité de devenir ce qu'on appelle des icônes de mode, c'est-à-dire, grâce à leurs moyens financiers, de pouvoir se payer les tenues les plus à la mode, et donc devenir une sorte de modèle, d'une certaine façon, des modèles d'identification pour les adolescentes. Mais je crois que là, la question, encore une fois, des moyens techniques de diffusion est fondamentale. Sans Internet, on n'aurait jamais eu le phénomène Paris Hilton. Donc vraiment, moi j'insiste beaucoup, cette extension absolument spectaculaire du domaine de la visibilité ne doit pas être interprétée comme répondant à une fonction préalable dont la société aurait besoin, c'est la conséquence d'inventions technologiques.
Donc nous avons vu jusqu'à présent effectivement ce développement progressif, c'est-à-dire effectivement, vous avez raison de le dire, non pas une suppression du talent au profit de la seule autorité, mais quelque chose d'un balancement de l'un par rapport à l'autre qui peut-être n'était pas accepté préalablement. Alors, renversons le point de vue, et dans votre livre, tous les points de vue ou toutes les manières de regarder le phénomène sont examinés. Posons-nous une autre question, c'est pourquoi, selon vous, avons-nous, nous, de l'autre côté, besoin de regarder avec admiration ces gens qui sont dans la lumière, alors que nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Alors vous avez deux hypothèses que vous évoquez, page 359, soit considérer que ce phénomène-là est un développement de la culture du narcissisme tel que développé par Christopher Lasch, qui suppose effectivement qu'il y a un gonflement du moi de plus en plus important, donc une forme d'identification comme ça, bon. Soit une autre thèse qui laisse à supposer qu'il y aurait une forme de satisfaction personnelle par transfert. Quelque chose qui serait possible parce que j'ai comme, voilà. Quel est ce besoin qui est le nôtre de regarder avec admiration ces gens, ces personnes qui sont dans la lumière quand moi-même je ne suis pas?
C'est une question passionnante parce qu'elle est fondamentale, en même temps elle n'a jamais vraiment été posée. Moi j'ai envie de répondre, c'est le besoin d'admirer, c'est-à-dire que ce besoin est un besoin fondamental. Bon, alors on peut ensuite le décomposer, ce que j'ai essayé de faire dans la sixième partie sur la psychologie du rapport aux célébrités, et notamment essayer de faire la part entre d'une part ce qui revient à un besoin d'identification, qui renvoie vraiment à des processus psychiques infantiles qui sont communs à tous les humains. Donc pour se développer, un petit humain a besoin d'avoir des modèles, de pouvoir s'identifier. Donc ça, c'est une première forme d'attachement aux célébrités. Et puis une deuxième forme qui est ce qu'on appelle communément l'amour, qui est le besoin non plus d'identification, mais de possession. Bon. Et qui renvoie à toutes les formes d'attirance sexuelle pour les célébrités. Bon. Voilà. Donc les deux existent, ne sont évidemment pas incompatibles, souvent se cumulent, et je crois permettent d'expliquer très facilement que l'on puisse développer un attachement fort à des personnes qui n'ont comme différence avec des personnes ordinaires dont on peut tomber amoureux qu'une chose qui est qu'on ne les rencontrera probablement jamais et qu'il existe une dissymétrie fondamentale entre eux et nous puisque nous sommes des millions, voire plus, à les admirer, alors qu'elles sont singulières et uniquement. Voilà, donc c'est en fait la vraie différence. Mais sinon, les processus fondamentaux d'attachement à une célébrité ne diffèrent pas des processus fondamentaux d'attachement à une personne ordinaire. On est toujours dans ce mixte d'identification et de désir de possession. Voilà, donc ça c'est, à mon avis, l'élément fondamental. Par ailleurs, je pense aussi, et j'ai découvert ça là encore en écrivant ce livre, qu'il y a dans une partie de nous-mêmes, et inégalement développée bien sûr chez les uns et chez les autres, une sorte de jouissance à savoir qu'il existe des gens plus grands que nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à accepter dans une société démocratique qui cultive, sinon l'égalitarisme, du moins l'égalité, ce qui n'est pas la même chose, bon, mais qui en tout cas semble valoriser l'idée d'une égalité constitutive de tous les humains. Je pense que cette valorisation de l'égalité s'accompagne paradoxalement d'un très grand besoin d'inégalité au sens de conscience qu'il existe des êtres plus grands que nous et surtout d'acceptation et même de grand plaisir à ce qu'il y ait cette forme de grandeur. Et c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur un problème qui me turlupinait quand même parce que je voyais déferler toutes ces critiques extrêmement virulentes contre les médias, contre la célébrité, contre la société du spectacle, contre le caractère superficiel, etc. Et en même temps, ces critiques semblent ne jamais atteindre les intéressés, puisque les gens continuent à regarder la télévision, à acheter de la presse people, à s'intéresser aux célébrités, à faire circuler des ragots à leurs propos. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a là deux cultures différentes, et que la culture du mérite, qui fondamentalement soutient les critiques du système de la visibilité, n'a absolument rien à voir avec cette autre culture qui nous fait aimer le fait même que des êtres soient plus grands que nous, dont j'ai découvert qu'elle renvoie à quelque chose de très ancien qui est la culture de la grâce, qui s'oppose à la culture du mérite. et dont j'ai découvert des équivalents dans les querelles théologiques du Moyen-Âge, dans les querelles théologiques entre protestants et catholiques, et même à l'intérieur du catholicisme ou du protestantisme, avec cette tension fondamentale, très ancienne, entre ce qu'à l'époque on appelait d'un côté le salut par les œuvres, et de l'autre le salut par la grâce. L'idée que d'un côté on se sauve en ayant des bonnes actions, en se conduisant bien, et que de l'autre côté on est sauvé, quel que soit ce qu'on fait, parce que on aura ou on n'aura pas, dans le cas d'être sauvé, on l'a, cette grâce qui est cette chose mystérieuse qui nous est donnée sans qu'on y puisse rien par un être transcendant. Bon, voilà, donc ça c'est une très ancienne tension au cœur de la religion chrétienne, probablement aussi d'ailleurs au cœur d'autres religions, et que l'on retrouve dans le rapport à la célébrité, puisque d'un côté on a des gens qui critiquent le fait qu'une grandeur puisse être attribuée via la visibilité à des gens qui en gros ne l'ont pas mérité ou ne l'ont pas mérité proportionnellement à leur grandeur qu'on leur assigne, et de l'autre côté, des gens qui continuent à cultiver cette grandeur et à en jouir et à ne pas être atteints du tout par les critiques qu'on peut en faire.
Effectivement, ça me permet d'embrayer sur une autre question qui est, donc vous dites effectivement, cette opposition entre le régime de la grâce, donc ce qui est touché sans raison particulière et sans mérite, et celui du mérite, donc l'effort, le travail, etc., bon, qui expliquerait sans doute ce changement de la visibilité. Donc on serait passé d'acteurs qui auraient un mérite à des starlettes qui n'auraient que la grâce d'être connues.
On a toujours les deux en même temps. Voilà, en fait, les deux coexistent.
Les deux coexistent, mais peut-être qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a plus que ce phénomène de notoriété ou de visibilité par la seule grâce de la télévision a augmenté au regard de ce qui pouvait se passer préalablement. Me permet d'aborder un autre aspect de votre livre et de l'enquête qui est la vôtre, qui est celle de la religion, justement. C'est-à-dire, en quoi est-ce que ce culte de la célébrité, ce désir d'être reconnu, cette ferveur, ce lieu de culte, 750 000 personnes qui vont à Graceland, lieu donc là où a vécu Elvis Presley, le trafic des reliques, la vente, je reprends tout ça des exemples qui sont dans votre livre, pour 4 millions de dollars, si je ne m'abuse, de la tombe qui serait à côté de celle de Marilyn Monroe, enfin je veux dire, on arrive à des phénomènes qui sont bons. Est-ce que tout cela ne ressemble pas d'une manière ou d'une autre à quelque chose qui est quand même de l'ordre d'une forme de religion démocratique, de la grâce universelle pour tous, sans paradis au-delà du monde d'ici-bas, par opposition à, disons, la religion d'avant qui laissait à supposer qu'il fallait, un, le mérite, et deux, quelque chose comme un salut qui dépasserait le monde d'ici-bas?
Alors bien sûr, c'est une question qu'on se pose tout de suite, dès qu'on se trouve confronté à la vision de gens qui attendent impatiemment qu'on leur signe un autographe, qui est une forme de relique, des gens qui en effet se rassemblent sous forme de pèlerinage, qui ont vraiment toutes les caractéristiques anthropologiques des pèlerinages, donc sur les lieux de vie et de mort des grandes vedettes. On parle d'ailleurs de culte de la célébrité, donc le terme est bien un terme religieux. Voilà, donc il y a énormément d'indices qui font que on a des ressemblances, évidemment, avec, disons, le culte des saints du Moyen-Âge. Bon. Mais en même temps, il y a des grandes différences. Bon. D'abord, les vedettes ne sont pas admirées pour leur vertu morale, mais pour leur beauté, pour leur talent, ce qui fait une grosse, grosse différence avec la religion. Et puis, il n'y a pas de dimension de salut. On est vraiment sur Terre, et bon, la vedette aura une postérité probablement, si c'est une grande vedette, mais ça n'assure en tout cas à personne une survie après la mort. Il n'y a pas de dimension miraculeuse non plus. Il n'y a pas vraiment de miracle fait par des vedettes. Enfin, il y a toutes sortes d'éléments qui manquent quand même pour que le phénomène puisse être vraiment assimilé à un phénomène religieux. Donc j'ai essayé de résoudre ce paradoxe en faisant la proposition suivante, qui est que il n'y a pas à considérer la religion comme une sorte d'entité qui préexisterait à tout cela et dont la visibilité ne serait qu'une sorte de prolongement un peu dégradé, disons, mais le rapport à l'admiration est une, encore une fois, une sorte de constante anthropologique qui prend des formes différentes dans l'histoire, selon les contextes, et qui, dans le monde occidental, a pris massivement, pendant, disons, les deux premiers millénaires de notre ère, une forme que nous appelons religieuse, ce qui signifie un certain nombre de caractéristiques, et qui prend aujourd'hui une autre forme qui a des points communs avec ce que nous appelons la religion, mais qui a aussi toutes sortes de différences. Voilà, donc c'est comme ça que j'essaye de déconstruire un petit peu cette idée de la comparaison religieuse qui contient bien sûr des éléments tout à fait justes et suggestifs, mais qui aussi nous empêche de penser le phénomène, parce que d'abord nous ne savons pas vraiment ce qu'est la religion. Donc si nous disons c'est un phénomène religieux, nous n'avons rien dit, hein, nous n'avons rien compris. Et donc plutôt que de s'arrêter à ce genre de comparaison un peu facile, je préfère essayer de décomposer les différentes propriétés du phénomène de la visibilité d'un côté et des phénomènes que nous appelons religieux de l'autre, et voir qu'il y a simplement des points communs et des différences.
Alors, une des acceptions du mot religion, c'est bien ce qui nous relie les uns aux autres. Et dans votre livre, en particulier vers la page 390, vous mettez bien en évidence qu'effectivement, il y a quelque chose en commun qui est peut-être plus fort entre tous les hommes de la planète d'aujourd'hui, qui est, ou qui serait justement, cette visibilité de certains. On peut se demander si Madonna, Lady Gaga, je ne sais quoi, enfin, ne sont pas ce qui est le point le plus commun entre tous les habitants de la planète. Et vous allez même jusqu'à développer l'idée de ce paysage dévotionnel commun, c'est-à-dire une forme de dévotion que nous avons à l'égard de ces idoles, dieux, demi-dieux, enfin quelque chose de cet ordre-là, qui effectivement nous relierait de façon beaucoup plus massive aujourd'hui les uns aux autres que la religion telle qu'on l'entendait effectivement autrefois pouvait nous relier dans les temps passés, voyez ?
Oui, le terme de paysage dévotionnel commun, je l'emprunte à Peter Brown, qui est un grand historien de l'Antiquité tardive et des débuts du christianisme. Alors, on peut dire ça et le contraire, c'est-à-dire qu'on peut dire à la fois qu'en effet, il y a une extension planétaire des figures de la visibilité moderne du fait, encore une fois, des moyens techniques de diffuser ces images, et on en a eu un exemple absolument stupéfiant avec Lady Di, sa mort qui a été un événement planétaire. Bon, c'est tout à fait impressionnant.
Je précise que dans votre livre, il y a une photo de l'hôtel de Diana, qui est même photo prise par vous.
Oui, oui, oui.
Voilà, où on voit effectivement cette confusion complète au-dessus donc de la place de l'Alma, enfin au-dessus de, hein, où effectivement une flamme qui n'a rien à voir avec Diana sert d'hôtel pour que tout le monde puisse aller...
C'est évidemment en 97, quand j'avais appris qu'un hôtel spontané s'était formé à sa mémoire après son accident, je suis tout de suite allée photographier ça, parce que j'avais en tête de faire ce livre. Donc, et ça marche encore, je sais, tout à fait. J'aurais pu prendre la photo aujourd'hui, mais je l'ai prise au tout début. Et donc, Lady Di, à laquelle je consacre un chapitre du livre, parce que vraiment, c'est une figure qui a condensé toutes sortes d'éléments de la visibilité moderne, à la fois le statut de membre de famille royale qui lui assure de facto d'emblée, a priori, une très grande visibilité, mais aussi toutes sortes d'événements biographiques qui ont permis de greffer sur ce statut des éléments d'identification et notamment des éléments empruntés aux figures traditionnelles de la sainteté, avec à la fin de sa vie l'élément sacrificiel, le baiser aux lépreux, etc., bon, qui en ont fait vraiment une figure extraordinairement planétaire. Bon, alors d'un côté, on a en effet des grandes stars mondiale, disons.
Dévotion.
Mais en même temps, on a aussi des cultures locales de la visibilité. Parce que, en fait, d'un pays à l'autre, ce ne sont pas tellement les mêmes stars qui sont adulées. Bien sûr, on a quelques très rares stars communes à différents pays. Mais si l'on regarde ce qui se passe en France ou aux États-Unis, par exemple, en lisant les livres anglo-saxons, je me suis aperçue que les exemples qui sont donnés, je ne les connaissais pas. Notamment les stars de la télévision. Et inversement, si on dit Bernard Pivot, ici, tout le monde sait qui c'est. Aux États-Unis, personne ne le saura.
Bon. Ou Johnny Hallyday.
Voilà. Donc, on a quand même des cultures nationales très fortes, au point que j'ai appris, dans un des livres que j'ai lus, que dans les services secrets, on teste la convergence entre ce que dit un supposé espion et ce qu'il est vraiment, en l'interrogeant sur les célébrités du pays dont il est censé être un citoyen. Et c'est ça qui fait que l'on sait s'il est vraiment originaire de ce pays ou pas. Voilà. Donc il y a quand même un fort ancrage local des célébrités. Donc il y a les deux à la fois.
Et ben, nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons juste après notre entretien avec Nathalie Hennick.
La figure de Napoléon Bonaparte dans l'œuvre de Sacha Guitry. Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous donne les codes de représentation de ce personnage historique dans l'œuvre du cinéaste au cours d'une émission Carrefour des Arts. Téléchargez dès maintenant cette émission sur canalacademy.com.
Donc nous retrouvons Nathalie Hennick autour donc de son livre « De la visibilité ». Excellence et singularité en régime médiatique, donc qui est une somme sur cette visibilité, cette célébrité, cette peopleisation des uns et des autres qui sont progressivement développer. Donc, dans une première partie, on a essayé de voir un peu à la fois le développement du phénomène et comment est-ce qu'on pouvait essayer de manière ou d'une autre de le comprendre. Je voudrais essayer de voir avec vous dans cette deuxième partie ce à quoi, me semble-t-il, ce phénomène s'oppose. Et je reprécise, comme je l'ai dit au début, que vous observez dans tout ce livre une neutralité axiologique parfaite, et donc vous mettez en parallèle les thèses, ce que pensent les uns et les autres, etc., sans prendre parti. Mais la question se pose sur, disons, le conflit que l'on peut imaginer entre la célébrité d'une part et la culture d'autre part. C'est-à-dire, l'école est là pour justement apprendre dans la patience, dans la tranquillité, dans l'effort, dans le souci de réussir, d'apprendre ce commerce avec les œuvres, les écrivains, les philosophes, etc. Bref. Donc cette culture générale qui nous est commune. En quoi est-ce qu'il y a ou il n'y a pas, selon vous, conflit pour un enfant, pour l'éducation d'un enfant, entre ce régime de la visibilité immédiat subie qui de plus en plus n'est justifié que par lui-même et ce lent travail d'assaise personnelle que suppose le travail, l'école, l'apprentissage, qui est d'un autre ordre que cette visibilité.
Oui, c'est une question vraiment importante et vous venez de donner un élément de la réponse en opposant la lenteur et l'évanescence, hein, l'évanescence qui est vraiment la caractéristique de cette visibilité médiatique. Mais il y a une autre caractéristique importante qui est que ce qu'on apprend à l'école, c'est en matière, disons, de culture, hein, de culture scolaire ou de culture générale, on apprend plutôt des éléments qui sont liés à la création, c'est-à-dire la peinture, la littérature, la musique. Or, ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est un déplacement de la figure du créateur qui est devenue formidablement importante au XIXe siècle pour des raisons que j'ai analysées dans un livre précédent qui s'appelle « L'élite artiste » et dont le sous-titre était « Excellence et singularité en régime démocratique » qui est donc vraiment le premier volume de cet ensemble. Et donc, au XIXe siècle, on a vu apparaître comme des figures absolument fondamentales d'identification le peintre ou le sculpteur, l'écrivain, le compositeur de musique. Cet intérêt pour le créateur se déplace, en tout cas dans la culture populaire, vers non plus le créateur, mais l'interprète, c'est-à-dire le grand chanteur, le grand acteur, le danseur éventuellement le mannequin, si on les considère comme des interprètes. Et ça, c'est un déplacement absolument fondamental qui se retrouve en décalage avec les valeurs de la culture scolaire. Voilà. Donc en effet, on a de plus en plus un écart entre ce qu'apprennent les enfants à l'école et puis ce qu'ils ont sous les yeux à la télévision. Ce sont deux cultures qui ne se rejoignent pratiquement pas. Et je pense que c'est un des grands problèmes aujourd'hui du système scolaire.
Mais allons plus loin, est-ce que ce ne sont pas deux cultures qui s'opposent? Je rappelle qu'un enfant entre 8 et 14 ans passe 800 heures par an à l'école et 1200 ou 1300 devant la télévision. Donc, est-ce que ce que dit la télévision, je pense en particulier à l'analyse qu'en fait Anna Bentolila sur ce conflit majeur entre les deux, est-ce que ce régime de visibilité tel que développé par la télévision et autres ne va pas à l'encontre, pas simplement différent, mais à l'encontre de ce travail qui est fait? Et donc, d'une certaine façon, cette culture populaire renverrait ceux qui n'ont pas les moyens de couper la télévision ou qui n'ont pas des parents suffisamment vigilants pour le faire, dans un régime ou dans une ignorance de la culture qui pourrait leur poser problème par la suite dans leur propre développement personnel et même professionnel.
Bah déjà, il y a une antinomie de fait qui est que le temps étant limité, on ne peut pas à la fois faire ses devoirs et regarder la télévision. Donc c'est clair que la culture de la visibilité, qui est vraiment l'essentiel de ce qui est transmis à la télévision, est une culture de fait antinomique de toute autre forme d'acculturation. Ça, c'est un vrai problème. Et en effet, la grande inégalité sociale aujourd'hui, c'est l'inégalité entre les familles où l'on sait qu'il faut éviter de trop exposer les enfants à la télévision et celles où la télévision est le mode normal de la vie quotidienne. Bon, ça, c'est vraiment la première grande inégalité avec l'inégalité dans l'alimentation. Mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Encore qu'il s'agit bien de gavage dans les deux cas, mais bon. Voilà, donc ça c'est une première grande antinomie. Également, ce que vous avez dit très bien sur la question de la temporalité. Est-ce qu'on est dans une culture de ce qui se consomme tout de suite ou est-ce qu'on est dans une culture de ce qui peu à peu s'apprend, s'incorpore, s'apprécie? Le fait de lire un roman, par exemple, implique forcément une capacité à se projeter soi-même dans la durée, ce qui n'est pas le cas d'une émission de télévision, bon, etc., etc. Cela dit, il y a quelquefois à la télévision des tentatives pour rejoindre une culture plus proche de celle de la culture scolaire. Et je pense notamment à l'émission Star Academy, qui a eu une très grande popularité, je crois parce qu'elle conjoint cette culture de la visibilité endogène qui a été constituée par les émissions de télé-réalité, et en même temps, la culture de l'effort, de la compétition, de l'émulation, du talent développé que des jeunes mettent en œuvre sous les caméras, mais authentiquement, puisqu'ils ont des professeurs et qu'ils font des efforts pour développer leur talent. Donc Star Academy est un peu une sorte de compromis entre les deux cultures.
Donc vous trouvez quelques grâces, c'est le cas de le dire, à ces émissions de télé-réalité que d'autres ne trouvent pas aussi
bénéfiques du point de vue d'une culture du mérite. Star Academy est un grand progrès par rapport à Love Story, par exemple.
Alors, prenons un autre aspect négatif de la visibilité, tel que vous l'analysez sous tous ces aspects. C'est que d'une certaine façon, n'y a-t-il pas, toujours pour le registre, disons un peu religieux si on veut, une séparation de plus en plus forte entre, disons, le domaine du sacré et le domaine du profane. Le profane, c'est quoi? C'est la vie dans laquelle moi je suis. Moi, je suis dans l'ombre, je suis dans avec un conjoint qui n'est pas une star, etc. Donc, est-ce que ce développement de régime de visibilité, cette admiration de plus en plus fort, cette présence de plus en plus manifeste de tous ces gens en vue qui, par opposition, laissent à supposer que moi, je ne le suis pas, est-ce que tout cela ne développe pas une forme de dévalorisation de ma vie ordinaire, sans lumière, sans star, sans gloire particulière? Vous voyez, quelque chose qui laisserait supposer que moi, je suis, pour reprendre un autre vocabulaire, dans le monde des moldus, voilà, et qu'il y aurait ailleurs le monde des magiciens qui serait tout là-haut et qui aurait tout pouvoir, et moi qui serais dans la quotidienneté banale, vulgaire et sans intérêt. Et donc, ma vie pourrait m'apparaître comme sans intérêt.
Alors c'est vrai qu'il y a quand même toujours eu une différence fondamentale entre le peuple et puis les grands. Sauf que avant, ces grands étaient très 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 loin. Ils étaient extrêmement éloignés, ils étaient totalement inaccessibles. Éventuellement, on pouvait apercevoir le roi lorsqu'il faisait une procession. Or, avec le système moderne de la visibilité, grâce aux médias et notamment grâce à la télévision, il y a une sorte de proximité réel ou pas, en tout cas le sentiment que nous pourrions être, nous, cet animateur de télévision, ce héros de télé-réalité, cet acteur de cinéma qui finalement est parti de rien et puis a réussi à monter dans son métier, etc. Bon, il y a un imaginaire de lui devenir célèbre, offert à tout un chacun, qui est en partie vrai, parce que c'est vrai que le cinéma, la télévision, Internet ont permis à beaucoup plus de gens qu'auparavant d'accéder aux moyens modernes de mise en visibilité. Donc il y a une part de vérité, et en même temps, on tente à oublier que quand même, ceux qui ont vraiment accès à ce capital de visibilité restent d'absolue minorité. Enfin, ça reste des gens très 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 peu nombreux. Simplement, ils paraissent un petit peu plus proches. Et du même coup, il est possible que cette proximité entraîne, incite à la comparaison entre soi et ses célébrités, et du coup, en effet, puisse avoir un effet d'auto-flagellation, de se dire « mais enfin, puisque lui ou elle a pu y arriver, pourquoi pas moi ?» C'est un effet qu'on n'a pas quand on se retrouve confronté à un roi ou une reine dont on sait qu'ils sont tellement loin de nous qu'on ne pourra jamais les égaler. Voilà, donc, en effet, je pense que la proximité peut induire des phénomènes de comparaison et donc de dévalorisation, c'est vrai.
Donc, il y aurait un effet de nocivité qui serait d'autant plus fort, me semble-t-il, que la distance incommensurable qui existait entre moi et Louis XIV n'était pas une distance simplement de visibilité, c'était aussi une distance d'État, une distance presque ontologique.
Statutaire.
Enfin, voilà,
oui.
Voilà, statutaire. Mm-hmm. Alors que maintenant, les personnes de la télé-réalité sont comme moi, ou comme tout le monde.
À ce moment-là, je pense que ça peut avoir des effets très différents. Ça peut avoir des effets totalement dépressifs. J'ai une personne qui est déjà sujette au risque de dévalorisation. Et puis, ça peut être avoir au contraire des effets formidablement toniques chez quelqu'un qui a envie, au contraire, de développer ses capacités. Regardez aujourd'hui les adolescents qui, dans leur chambre, apprennent à chanter, à danser, etc., dans l'espoir de devenir des vedettes. C'est formidable, ils développent quand même, ils essayent de développer leur talent. Ils en ont ou pas, mais ils essayent de le développer. Donc, dans certains cas, ça peut avoir des effets d'incitation et d'émulation formidables. Donc là, je crois que ça, comme pour beaucoup d'autres éléments, le phénomène de la visibilité ne fait que renforcer de façon spectaculaire des tendances qui sont déjà là.
Mais est-ce que vous seriez de ceux qui considèrent que il y a 20 ans ou 25 ans, les petits enfants ou les jeunes adolescents voulaient être qui Marilyn Monroe, qui Alain Delon, donc des acteurs, donc voilà. Et que maintenant, aujourd'hui, les mêmes enfants, enfin, à 25 ans de décalage, veulent être célèbres pour la célébrité elle-même, quels qu'en soient les moyens, quel qu'en soit l'usage, quel qu'en soit le...
Donc
la célébrité est devenue en soi une fin indépendamment.
Oui. C'est vrai qu'il y a ce que j'ai appelé une endogénéisation de la célébrité, de la visibilité, c'est-à-dire qu'elle se nourrit d'elle-même et elle devient une valeur en soi. Bon. Et on peut en effet trouver que c'est déplorable puisque dans la mesure où cette valeur ne serait pas étayée par quelque chose qui lui préexisterait et qui justifierait cette forme de grandeur. On peut évidemment, du point de vue d'une culture du mérite, estimer que c'est mieux quand les gens admirent des gens d'autres qui ont de bonnes raisons pour être admirés. On peut aussi, c'est vrai, se dire que cette forme de démocratisation de la visibilité amène des gens qui n'auraient jamais pu espérer pouvoir monter dans l'échelle sociale à trouver une façon de sortir de leurs conditions pour monter, et notamment les femmes, puisque je développe cette idée dans le livre. Au XXe siècle, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des femmes ont pu connaître une ascension sociale fulgurante, partant de très très peu pour devenir d'immenses stars, non pas par un beau mariage, comme c'était le cas auparavant, où c'était à peu près la seule façon pour une femme de s'élever socialement, mais parce qu'elles devenaient des grandes chanteuses ou des grandes actrices. Donc il y a une forme d'accès moins réservé, disons, plus large à la visibilité, pour des catégories qui, auparavant, n'avaient absolument aucune chance de monter dans l'échelle sociale. Donc, c'est la contrepartie positive de cette forme de vulgarisation et de banalisation de l'accès à la visibilité.
Alors, je voudrais terminer avec vous sur ce régime, donc, de la visibilité qui se développe de plus en plus, donc, qui laisse à supposer que il doit y avoir de la visibilité accrue partout. C'est-à-dire que, qui dit visibilité dit que la frontière qui, pour certains, paraît une frontière essentielle entre le privé et le public, est enfoncée, est abolie, que on va regarder dans la vie des gens partout. Ma question, c'est est-ce que vous n'anticipez pas, et ce n'est pas dans le livre, donc voir un peu comment est-ce que vous pouvez projeter ce régime de la visibilité sur celui qui, me semble-t-il, est pire, qui est celui de la transparence. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la visibilité suppose un devoir, une exigence, une forme de nécessité combinatoire d'aller fouiller, regarder, voir, et que donc il n'y a plus de secret, il n'y a plus de quant à soi, il n'y a plus de vie privée, et donc pourrait se développer une forme de surveillance bonhomme et inquisitoriale de tout le monde, sur tout le monde, considérant que vous n'avez rien à cacher, que vous ne pouvez pas parler off, que vous ne pouvez rien dire en dehors, et on peut faire référence à quelques affaires où effectivement des téléphones portables placés ici ou là dans des cafés, dans des chambres d'hôtel, etc., exposent des personnes connues ou même d'autres qui ne le sont pas à des sanctions qui laissent à supposer qu'il n'y a plus de recoin d'invisibilité pour ceux qui souhaiteraient l'avoir et que donc nous pourrions, avec cette extension à l'infini de la visibilité, arriver à un régime de surveillance généralisée de tous pour tous, pour de bonnes intentions, pour être connu, moi qui vous mettrais, vous, dans une posture délicate, ou vous, dans une situation périlleuse, ou vous, en petite tenue, ici ou là, sur Internet, et donc connaître ce quart d'heure de célébrité que je n'aurais pas connu préalablement.
Oui, c'est l'effet Paris Hilton, pour le coup. Hein.
C'est l'effet Paris Hilton, sauf que Paris Hilton, c'était pour partie voulu, même si ça a été volé, mais volé par celui-là même qui était sur la casette elle-même. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de cela ?
Je crois qu'il faut distinguer deux éléments dans ce phénomène. En effet, on assiste à un abaissement assez marqué de la frontière entre le public et le privé. Bon, et l'espace privé est de plus en plus piétiné par l'emprise du public. Bon. Mais ça existe de deux façons. Ça existe d'abord pour tout un chacun, en raison des moyens techniques, encore une fois, de mise en public. Et c'est le cas, en effet, des téléphones portables qui peuvent... diffuser la photo de n'importe qui, n'importe comment, bon. Mais ça, disons, c'est vraiment la conséquence de cette technicisation des moyens de la mise en public et également d'une constante, là aussi, à mon avis, très fondamentale dans la psyché humaine qui est le désir de regarder, le désir de voir ce qui est caché, le désir d'entrer dans l'intimité des autres, la curiosité, l'indiscrétion qui est une chose extrêmement répandue depuis la petite enfance jusqu'à des âges très avancés.
Qu'on peut peut-être considérer comme un peu malsaine.
En tout cas, qui relève de ce qu'on appelle la culture du ragoût, c'est exactement la même chose. Malsaine ou pas, ça existe. Bon, il y a une tendance à vouloir aller voir là où c'est caché et surtout...
Par le petit trou de la serrure.
Voilà, exactement. Donc maintenant, on a des moyens, en effet, de rendre cet espace privé de plus en plus public. Ce qui se passe pour les célébrités relève évidemment du même phénomène, mais avec un cran supplémentaire qui est que une dimension constitutive de l'accès au statut de star, non seulement la diffusion massive dans l'espace public du visage et du nom, mais aussi l'intérêt du même coup pour ce qui est caché derrière ce qui est montré. C'est-à-dire comme si plus une personne était montrée, et plus les gens sont attirés par ce qui est caché derrière le montré. Et des historiens du cinéma américain ont estimé que le star system hollywoodien ne commence que dans les années 20, à partir du moment où non seulement on diffuse dans des magazines de cinéma les photos des acteurs et leur nom bien sûr, et puis des anecdotes de tournage, mais aussi des informations sur leur vie privée, des interviews sur leur vie privée, et que c'est cette intrusion dans la vie privée des célébrités qui fait vraiment le star system. Et on va avoir ce système prendre une extension considérable avec l'apparition des paparazzi dans les années 50, qui, grâce là encore à l'invention de téléobjectifs de très grande portée, vont devenir des photographes spécialisés dans le vol de l'intimité des célébrités. Voilà. Donc c'est deux phénomènes évidemment qui se conjoignent hein, chez les célébrités, mais qui en effet aboutissent à cette tendance au rétrécissement de la vie privée, que l'on peut trouver extrêmement problématique. En tout cas, la loi est là pour mettre des limites. Et il y a toute une jurisprudence que j'ai analysée dans le livre et qui est très importante, qui est différente d'ailleurs d'un pays à l'autre, sur la question de savoir où faut-il mettre et garder la frontière entre la vie privée et la vie publique.
Mais donc vous dites effectivement, il y a la célébrité et le paparazzi. Bon, il y a celui qui observe et celui qui est vu. Bon. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, pour reprendre ma question d'avant, que d'une certaine façon, nous changeons de registre quant à cette visibilité, que j'ai un droit, que tout le monde a un droit à l'égard des gens en vue, de les traquer partout, et que nous devenons tous, de plus en plus, des paparazzi des uns des autres, pas seulement des gens connus, mais aussi des gens qui ne le sont pas, ou peu, ou à moitié, ou à peine, ou qui sont peut-être en train de le devenir, et que donc, d'une certaine façon, il y aurait un droit à la cannibalisation de visibilité des autres qui ferait qu'il n'y aurait plus de refuge, de refuge, de séparation d'avec cette vision, ce regard qui peut être malsain sur l'autre, les autres.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je précise tout de suite que ça n'est pas une tendance universelle puisqu'il y a un moyen très simple de ne pas participer de ce phénomène, c'est simplement de ne pas acheter de journaux People, voilà, et de ne pas s'intéresser aux célébrités, ce qui est le cas quand même de beaucoup de gens, hein. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes achètent de la presse People et s'intéressent aux célébrités, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne le font pas.
Enfin, la presse People étant quand même, en France, après la presse télévision, la deuxième presse.
Absolument.
De
tout
France.
À fait.
Je veux dire,
c'est pas un phénomène universel, c'est un phénomène qui augmente, mais auquel on peut parfaitement résister si on le trouve immoral, en s'abstenant d'aller sur Internet, sur les sites où on montre des célébrités, et en s'abstenant d'acheter de la presse People. Cela étant dit, le point que vous soulevez est très intéressant puisqu'il fait l'objet, là encore, de jurisprudence et de textes de loi, puisque dans certains pays, notamment en Allemagne et aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on estime que le fait d'être célèbre vous donne d'une certaine façon une obligation, c'est un peu noblesse oblige, qui est de vous exposer à la curiosité des gens et vous met dans un statut différent des citoyens ordinaires du point de vue de votre vie privée. Ça n'est pas le cas en France, qui est un pays beaucoup plus protecteur de la vie privée, où les vedettes obtiennent beaucoup plus facilement réparation devant les tribunaux lorsqu'elles estiment que leur intimité a été bafouée. Et je dois dire que de plus en plus, la jurisprudence internationale va dans le sens de la France. Il y a des décisions récentes qui montrent que des stars se sont appuyées sur la jurisprudence française pour obtenir à l'étranger une protection de leur vie privée. Donc, le phénomène est en effet massif et évident, mais un, il est quand même relativement bien canalisé par la loi, par le droit, et d'autre part, là encore, il n'y a pas de fatalité à cela. Si l'on estime que c'est une mauvaise chose, il suffit simplement de s'abstenir d'y participer.
Oui, sauf que, enfin, pour continuer sur mon idée, mais sauf que vous avez une zone de non-droit qui est Internet. Donc, il n'y a aucun recours possible contre des images diffusées sur Internet.
Oui, c'est très difficile. Voilà. C'est juridiquement très compliqué et techniquement très compliqué.
Donc, quand vous êtes, ce qui est le cas de la visibilité telle que vous l'analysez aujourd'hui, quand vous êtes avec des paparazzi qui publient dans les journaux, qui ont des directeurs de publication, contre lesquels vous pouvez avoir des actions juridiques, c'est relativement canalisable et ou cadrable. Mais est-ce que vous ne considérez pas que ce cadre-là est en train d'éclater au profit de cet instrument magique et magnifique qui est effectivement un smartphone qui rend possible à tout moment de visibiliser qui que ce soit, dans quelque position que ce soit, quand bien même serait-il drogué, alcoolisé, dans un état second si ce n'est tiers, et de diffuser cette image dans une zone de non-droit qui pourrait nuire complètement à
ça, c'est le problème plus général d'Internet comme lieu de dérégulation juridique absolument phénoménal. Et ça ne joue pas seulement sur cette question de la transgression des limites de la vie privée. Ça joue aussi sur le droit d'auteur. On connaît tous les débats actuels infinis sur l'atteinte au droit d'auteur sur Internet. Bon, Internet est un lieu massivement de non-droit et ça pose un problème fondamental dans nos sociétés parce que aucune société n'a jamais pu subsister sans avoir des régulations, éventuellement juridiques. Et donc, je pense qu'on va aller de plus en plus vers des formes de régulation d'Internet qui simplement posent des problèmes techniques. Mais je crois que cette question de la frontière vie publique-vie privée va probablement trouver des formes de régulation, même sur Internet.
Eh bien, Nathalie Hennick, merci beaucoup. Donc, je renvoie nos auditeurs à votre dernier livre qui est vraiment, c'est ce qui m'a intéressé, une somme, qui reprend tous les aspects, effectivement, de cette visibilité, de cette célébrité, de cette starification, de cette peopleisation, et qui se développe, et qui, effectivement, comme vous l'avez dit, est à la fois la chose la plus visible et la plus invisible pour ceux qui l'analysent, sauf vous. Et donc, je renvoie nos auditeurs à votre livre, donc, De la visibilité, excellence et singularité en régime médiatique, qui vient de paraître donc en 2012 aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.
Merci.